Radio Prague, les informations.
Dobrý den, bonjour et bienvenue à l'écoute. Alexis Rosenstreich au micro pour les infos dont voici les titres. Le gouvernement tchèque a reporté sa décision quant à l'aide à apporter à la zone euro. La zone euro est évidemment au centre de la visite du Premier ministre tchèque Petr Nečas en Hongrie. Et puis l'Office des statistiques tchèques publie les premières informations du recensement 2011. Réunie mercredi soir, la coalition gouvernementale n'a pas pris de décision concernant la participation ou non de la République tchèque à l'aide à la zone euro. Suite au sommet européen de la fin de la semaine dernière, il a été demandé à la République tchèque de verser 3,5 milliards d'euros, 3,5 milliards d'euros au Fonds monétaire international. Souhaitant disposer d'informations et d'analyses complémentaires, entre autres du Fonds monétaire international, le gouvernement a donc reporté sa décision. Par ailleurs, un membre de chacun des trois parties de la coalition sera chargé de négocier au sujet du nouveau traité qui doit notamment rendre plus sévère la politique fiscale de l'Union européenne. Et ces problèmes relatifs à la zone euro constituent le thème central de la visite que le Premier ministre tchèque Petr Nečas effectue ce jeudi en Hongrie. Le chef du gouvernement y sera reçu notamment par son homologue Viktor Orban. Les questions de l'élargissement de l'Union européenne et de son cadre financier futur doivent également être abordées, ainsi que celles du développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays, de l'énergétique ou encore de la coopération au sein de l'OTAN. Petr Nečas est accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires et de représentants de la Chambre de commerce tchèque. L'Office des statistiques a publié ce jeudi quelques données du recensement de la population organisé il y a quelques mois. La République tchèque compte un peu plus de 10,5 millions d'habitants, soit 330 000 de plus qu'il y a 10 ans, et un nombre d'étrangers qui a augmenté de 260%. Les Ukrainiens forment la plus importante minorité étrangère, selon les chiffres publiés, devant les Slovaques et les Vietnamiens. 6,7 millions de personnes se sont déclarées comme tchèques ethniques. 2,7 millions n'ont rien indiqué concernant leur ethnie. Seulement 13 500 personnes ont déclaré être des Roms, tandis que plus de 500 000 personnes ont déclaré être des Moraves. On en parle dans la suite de l'émission. L'amendement à la loi constitutionnelle relatif à l'instauration du système d'élection du président de la République au suffrage universel direct a été adopté par la Chambre des députés ce mercredi. Magdalena Hrozinková vous en dira un peu plus dans quelques minutes. Et puis, les députés ont également adopté ce mercredi le projet du budget de l'État pour l'année 2012. Un projet qui, cela dit, pourra être modifié si les perspectives de l'économie, et c'est assez vraisemblable, vont changer et se détériorer dans les prochains mois. Du sport avec du football et des transferts attendus et annoncés, tandis que le milieu de terrain international Petr Jiráček a passé une visite médicale mercredi et que son transfert semble en bonne voie, comme celui de son coéquipier à Plzeň en équipe nationale Václav Pilař, le club allemand de Wolfsburg a confirmé qu'il était également intéressé par la venue d'un troisième joueur tchèque, Tomáš Rosický, milieu de terrain d'Arsenal et capitaine de la sélection tchèque. Mais l'entraîneur français d'Arsenal, Arsène Wenger, a indiqué qu'il n'était pas encore prêt à laisser partir Tomáš Rosický. Une affaire à suivre. La météo avec une certaine détérioration attendue pour les prochains jours, des averses et de la neige attendue pour le week-end prochain. Demain, ce sera des températures entre 3 et 8 degrés pour les maximales et un ciel couvert. Voilà pour les infos. La suite du programme en français, c'est dans une poignée de secondes.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité de Radio Prague. À la une, aujourd'hui, l'adoption par la Chambre des députés de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. En 2013, les Tchèques pourraient donc désigner leur président et ceci pour la première fois dans l'histoire de leur pays. Ensuite, nous parlerons cinéma. La Maison Close, c'est un lieu de cinéma, dit Bertrand Bonello, que vous entendrez dans ce magazine. Son film La Polonie, de souvenirs de la Maison Close, vient de sortir en salle en République tchèque. Dans la rubrique touristique, nous irons à la découverte du patrimoine industriel d'Ostrava, Dolní Vítkovice. Très bonne écoute à toutes et à tous. C'est C'est un changement historique qui se prépare. Discuté depuis la chute du régime communiste dans le pays, l'élection du président de la République au suffrage universel direct a été adoptée mercredi par la Chambre des députés. Si l'amendement à la loi constitutionnelle est également avalisé par le Sénat, comme cela est fort probable, les Tchèques pourront pour la première fois élire leur président en 2013. Pourquoi tant d'années d'hésitation ? La réponse avec le commentateur de la radio tchèque Petr Nováček.
Pravicové strany ODS v čele dlouho říkali, že přímá volba.
Les partis de droite et le parti civique démocrate ODS en tête ont affirmé pendant de longues années que les référendums en tout genre, y compris l'élection du président au suffrage universel direct, n'étaient pas compatibles avec une démocratie parlementaire. La position de l'ODS a commencé à évoluer lors de la dernière élection, très difficile, de Václav Klaus, président de la République. Après l'élection, le parti a de nouveau changé d'avis. Comme c'est un thème qui est discuté depuis longtemps, je pense que la coalition gouvernementale a bien fait d'intégrer l'élection au suffrage universel direct à son programme. J'espère que l'amendement sera adopté et le débat enfin clos. Même si nous n'avons aucune certitude que le prochain président sera meilleur, cela ne dépend vraiment pas du mode d'élection de celui-ci.
Proposé par la coalition gouvernementale de centre-droit, l'amendement à la loi constitutionnelle relatif à l'instauration du système d'élection du président de la République au suffrage universel direct a été adopté par une large majorité avec 159 voix pour sur un total de 200 députés. Avant le vote, un compromis avait été trouvé entre les trois partis gouvernementaux et l'opposition social-démocrate. Cette dernière avait conditionné son soutien à trois modifications au texte visant à limiter les pouvoirs du président. Deux de ces conditions ont été remplies. Dans le nouveau système, le chef de l'État ne bénéficiera plus de l'immunité que pendant la durée de son mandat. De même, les successeurs de Václav Havel et de Václav Klaus ne pourront plus accorder de grâce présidentielle qu'avec le consentement du Premier ministre. L'opposition n'a toutefois pas réussi à faire modifier le système d'élection du Conseil de la Banque centrale, dont les membres sont nommés uniquement par le chef de l'État. Cela n'a toutefois pas empêché les députés sociaux-démocrates de voter en faveur du texte. Celui-ci a également de fortes chances d'être approuvé par le Sénat, où la social-démocratie est majoritaire et donc d'entrer en vigueur. Le leader de la social-démocratie, Bohuslav Sobotka, a déjà fait savoir qu'il recommanderait aux sénateurs de voter en faveur de l'adoption du suffrage universel direct pour l'élection du président. Lorsque s'achèvera en 2013 le second et dernier mandat de l'actuel président Václav Klaus, la République tchèque devrait alors rejoindre une vingtaine de pays européens où le chef de l'État est élu directement par les citoyens. Bien que 80% des Tchèques y soient favorables, selon les sondages, l'introduction du nouveau système continue tout de même à soulever des questions. Nous écoutons Jan Kissel, spécialiste du droit constitutionnel.
Je suis surpris par le fait que personne n'ait encore expliqué pourquoi l'introduction du suffrage universel direct est nécessaire. L'argument selon lequel le président issu de cette élection aura une légitimité plus importante est juste. Mais à quoi bon avoir une légitimité plus importante si vous ne voulez pas faire de ce président le leader de notre système constitutionnel ? Penser que le président élu par les citoyens sera indépendant du fonctionnement des partis est absolument faux, car les partis politiques auront une place privilégiée dans l'organisation et le financement des campagnes électorales. Tandis que dans le système du vote par le Parlement, il est possible de se mettre d'accord sur un président impartial, comme c'était le cas de Václav Havel par exemple.
Alors que jusqu'à présent, le chef de l'État était élu par les deux chambres réunies du Parlement pour un mandat de 5 ans, l'amendement en question prévoit un mode de scrutin à 2 tours, semblable à celui des élections sénatoriales où au second tour s'opposent les 2 candidats sortis en tête du premier. Les candidats pourront être proposés soit par 20 députés et 10 sénateurs, soit par un groupe d'au moins 50 000 citoyens. Parmi les candidats plébiscités par les Tchèques lors du sondage de l'agence STAC effectué en septembre dernier, figurent l'ancien Premier ministre Jan Fischer, l'économiste Jan Švejnár, la présidente de la Chambre des députés Miroslava Němcová ou encore l'actuel chef de la diplomatie et président du parti Top 09 Karel Schwarzenberg, qui lui a déjà confirmé sa candidature en cas d'élection présidentielle au suffrage universel direct. La Polonide, souvenir de la maison close, est sortie en salle le 1er décembre dernier après son avant-première au Festival du film français. Son réalisateur Bertrand Bonello était à Prague, extrait de l'entretien qu'a réalisé avec lui Anna Kubiszta.
Ben, la première chose, c'est que j'avais envie de faire un film avec un groupe de jeunes femmes que j'avais pas envie d'inscrire dans des problématiques contemporaines, les petits copains, les petits boulots, etc. Et que tout d'un coup, j'ai eu l'intuition que la maison close pouvait m'offrir tout ce que je cherchais. Et j'ai commencé à faire des recherches. Tout en commençant à écrire en même temps. Et plus j'avançais dans mes recherches, plus j'ai commencé à m'attacher à cette vie quotidienne, à ce groupe, à cette institution, à ces femmes. Et puis plus j'avançais, plus mon intuition me semblait juste. C'est-à-dire que ça me semblait être un vrai lieu de cinéma pour le cinéma.
Que vous dites que vous avez fait justement des recherches. Comment est-ce que vous avez fait pour le côté historique? Parce que finalement, c'est vrai que quand on voit le film, en dehors de la beauté des images, il y a aussi tout ce côté du quotidien, justement, de ces femmes. Par exemple, des choses auxquelles on ne penserait pas qu'elles doivent faire. Enfin, la toilette, mais c'est une toilette qui est différente, évidemment, du commun des mortels.
Ben, en fait, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était les détails. Je voulais pas... Ça fait toujours très peur quand on part dans de la reconstitution. Et je me suis dit que ma manière de m'en sortir, ce serait de m'attacher aux détails. Et je suis tombé sur quelques bouquins de journalistes qui, en effet, par exemple, on sait à peu près ce que faisaient les femmes entre 8h le soir et 3-4h du matin. On le sait parce qu'il y a des témoignages masculins, enfin des peintres qui étaient là, des écrivains qui étaient là, qui passaient du temps et qui rentraient chez eux, peignaient leurs tableaux, écrivaient leurs livres. Donc on voit à peu près, on a des images. La maison close, ça fait presque partie de notre inconscient collectif, en tout cas celle-ci, 1900, énormément de tableaux, le musée d'Orsay, voilà. Mais ce qui se passe entre 3h du matin et 20h, quand les femmes sont seules, en effet, moi j'étais très attaché à quelle heure elles se lèvent, comment elles se coiffent, comment elles se parlent, qu'est-ce qu'elles mangent, qu'est-ce qu'elles font, l'ennui, l'attente. Il faut savoir que ces femmes n'avaient pas le droit de sortir. La prostitution était autorisée à l'intérieur de ces maisons, dehors c'était du racolage. Donc cette espèce de lieu qui est hallucinant de beauté, etc., devient aussi une prison. Donc j'avais envie de traiter un petit peu le côté prison, l'attente, le rapport aussi. Il y a une séquence dans le film où un médecin vient. Ça c'est historique, c'est une fois par mois le médecin venait pour savoir si elles étaient soit enceintes, soit malades. Donc l'attente aussi de ça, la peur. Et donc c'est ça que j'appelle la chronique, le quotidien. Et pour ça, en effet, il y a eu 2-3 livres.
1900, c'est vraiment le tournant du siècle. Hein. On parle, 1900 est associé à beaucoup d'idées comme ça. On parle du mal de fin de siècle. Et puis c'est la fin d'un monde, on se rapproche de la Première Guerre mondiale. Ben, les personnes évidemment ne le savent pas encore, hein, mais c'est vraiment la fin d'un monde. C'était aussi ça qui vous intéressait, de décrire justement le déclin d'une certaine forme de civilisation.
Le déclin, la fin, c'est ça. Enfin moi, la fin des choses, c'est toujours quelque chose qui me touche. Et 1900, alors par exemple, on le voit à Paris, c'est l'arrivée de l'électricité, du téléphone, l'arrivée du métro. Enfin, il y a déjà toute une forme de modernité qui se met en place. 1900, c'est un siècle qui se termine avec des idées qui seraient que le prochain sera un siècle formidable, sans guerre, sans maladie. Voilà, l'histoire a montré que ce sera le siècle le plus sauvage de l'humanité. Et puis voilà, il y a quand même une forme de crépuscule à ce moment-là. Et puis vous parliez de la Première Guerre mondiale, on la voit pas encore arriver, on commence déjà. J'ai hésité beaucoup sur la date, puisque historiquement les maisons closes ferment en 1946. Donc j'avais pensé faire le film en 1946, traiter la fermeture des maisons closes, et puis l'après-guerre ne m'intéressait pas beaucoup, et puis je préférais me concentrer sur une maison. Et vraiment, à quelques années près, j'ai vraiment choisi 1900 pour toutes ces raisons-là. Déjà en 1905, 1906, le statut des maisons avait changé, on pouvait pressentir quand même une Europe un petit peu en train de bouger. Mais 1900, à cette charnière, me semblait plus intéressant, et en plus, esthétiquement, plus fort.
C'était le réalisateur Bertrand Bonello au micro d'Anna Kubiszta. Direction Ostrava, métropole de la région de Moravie-Silésie et qui est avec ses 307 000 habitants la troisième ville de République tchèque. Après 3 heures de route à bord du RegioJet, nouvelle liaison ferroviaire reliant Prague à Ostrava, nous débarquons au centre-ville dans la fameuse rue Stoloni, réputée pour ses bars de nuit et l'animation qui règne. Autre phénomène particulier qui fait l'image de la ville et qui est le but de notre voyage aujourd'hui, l'ancien site industriel de Dolny Vitkovice qui est en train d'être transformé en un important centre culturel et en musée de production métallurgique. Visite des lieux dans le magazine touristique avec Yarka Gisubleva.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc.
La production d'acier a été arrêtée à Ostrava Dolny Vitkovice en 1998, alors que le groupe Vitkovice Machinerie et la société métallurgique ArcelorMittal Ostrava sont toujours en activité. En 2002, le site de Dolny Vitkovice a été classé monument culturel national avant de recevoir en 2008 le label du patrimoine culturel européen. Les tours des anciens hauts fourneaux qui se dressent à l'horizon lui ont valu le surnom de Hradčany d'Ostrava pour sa ressemblance avec le panorama du château de Prague. Un ascenseur géant transportera les touristes au sommet de l'ancien haut fourneau numéro 1, à une hauteur de 60 mètres. En attendant, le site est un immense chantier où les travaux de réaménagement des anciennes aciéries, coqueries des hauts fourneaux et d'autres équipements technologiques de la production sidérurgique et énergétique ne s'arrêtent pas.
V podstatě historicky výroba jako kdyby toho samotného železa.
Historiquement, la production du fer existe dans la région d'Ostrava depuis le XVIIe siècle.
Existovala v lokalitě ostravského regionu už někdy v 17. století.
La voix de notre guide Jakub Ševerček se perd dans le bruit des machines et des travaux, et pour cette raison, nous continuons notre entretien dans un coin calme du bâtiment du futur musée technique.
Ta národní kulturní památka se stává jednak z samotných vysokých pecí.
Le monument culturel de Dolny Vitkovice est composé des hauts fourneaux, des coqueries et de l'ancienne mine Hlubina. Son histoire est unique, du fait qu'il concentre en une seule localité l'extraction du charbon, la production métallurgique et le traitement du fer. Grâce aux capacités suffisantes des ressources et à leur concentration, les entreprises ont pu exister pendant près de 160 ans dans un seul et même endroit.
En 1835, le banquier viennois Salomon Mayer Rothschild devient propriétaire des aciéries de Vitkovice à Ostrava, qui reste en possession de la famille jusqu'en 1873. La production métallurgique a alors connu un véritable boom. Pour capter le gaz produit secondaire de la production d'acier, un immense réservoir à gaz a été érigé à côté des hauts fourneaux. Aujourd'hui, ce réservoir est en train d'être transformé en nouvel espace multifonctionnel qui devrait accueillir dès le 8 mai 2012 les visiteurs d'un festival de musique dédié à l'Océanie tchèque. L'architecte Josef Pleskot est à l'origine de l'idée d'utiliser une immense cloche ayant autrefois coiffé le réservoir gaz d'origine. Après avoir été surélevée de 1490 cm, cette cloche sera intégrée dans le nouveau toit de la salle des congrès. Les hauts fourneaux de Dolny Vitkovice ont cessé toute activité en 1998. Au cours des 160 ans d'existence, plus de 90 millions de tonnes d'acier y ont été produites. Grâce à l'association Dolny Oblast Vitkovice et aux dotations de l'Union européenne, l'ancien site industriel devrait connaître une seconde vie.
L'idée de départ de l'Institut du patrimoine était guidée par la philosophie du dernier jour des aciéries, c'est-à-dire par la préservation du site dans le même état avant que les ouvriers ne l'aient quitté. Comme il s'agit d'un complexe qui est fait d'acier, de fer et d'autres éléments en métal, on s'est rendu compte qu'il ne résisterait pas longtemps au temps. Et il a été décidé de conserver cette localité, de lui redonner une nouvelle vie, une nouvelle raison d'être.
Jedině tak, že tady v podstatě vdechneme jinou funkci, jiný smysl využití.
Comme l'observe encore Jakub Švrček, trois importants projets devraient être achevés en 2012. Le circuit de visite dans l'ancien haut fourneau numéro 1, l'espace multifonctionnel d'une capacité de 1500 personnes et le musée interactif aménagé à l'emplacement de l'ancienne centrale énergétique. Une partie du site de Dolní Vítkovice est déjà accessible au public. Ainsi, cette année, plus de 160 000 visiteurs y ont passé. À l'entrée du site se trouve le château Rothschild, qui a ouvert ses portes en 2009 après une restauration complète. Il doit son nom à la famille Rothschild, qui l'a fait ériger en 1847 en tant que siège représentatif des directeurs d'alors. Une particularité du château est que chaque pièce au rez-de-chaussée est aménagée dans un autre style, dont le style dit bruxellois, raconte Lucie Břemková.
Je inspirovaná světovou výstavou Expo, která byla v Bruselu v roce 1950.
Le style Bruxelles est inspiré par l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles. Les murs de la salle sont décorés de papier peint et de tapisserie. La pièce est aménagée avec des objets en verre et des meubles des années 1960. On y expose des modèles miniatures de produits typiques de Vítkovice, dont une unité électrogène à vapeur, le modèle du pont ferroviaire d'Ústí nad Labem et certains autres articles exportés à l'époque vers le monde entier.
La salle voisine de style Empire accueille des conférences et des concerts. La guide attire notre attention sur le pupitre de Václav Havel, qui se trouvait au château de Prague et qui a été acquis lors d'une vente aux enchères. Une autre particularité est la salle de style dit Sorella, abrégée en tchèque de deux mots, le réalisme socialiste, un courant artistique et architectural typique des années 1950, originaire d'Union soviétique. Lucie Břemková.
Il y a des meubles d'origine des années 1970. Une bouteille de vodka reste posée au milieu de la table car c'est à cette même table qu'étaient passés des contrats avec l'Union soviétique. Les tableaux signés Josef Schmeck sont des portraits de dirigeants politiques qui ont eu une influence négative sur le cours de l'histoire de notre pays, comme Gottwald et Zapotocki. Une exception dans cette série de leaders communistes, c'est le portrait de Václav Havel, le premier président démocratique élu par un parlement communiste.
La salle centrale du château Rothschild est dominée par une grande table créée par l'architecte Kaplitsky. Cette année, on y a exposé Lacrima, une goutte d'or en forme de larme haute de presque un mètre, de l'artiste tchéco-argentin Federico Diaz, qui a représenté notre pays à l'Expo 2010 de Shanghai. Autre site industriel qui vaut le coup d'être visité à Ostrava, le Landek Park, appelé ainsi d'après une colline locale et réputé pour la trouvaille de la statuette de la Vénus de Landek. Au Landek Park, on peut visiter le musée minier et une exposition consacrée aux sauveteurs dans les mines. On écoute l'un d'entre eux, Miroslav Machera.
Tout adepte du métier de sauveteur doit être un homme de plus de 25 ans qui a travaillé pendant 3 ans minimum dans une mine. Vu son exigence énorme, le métier ne peut être exercé au-delà de 48 ans. Ensuite, il faut arrêter. Les sauveteurs ont sur leur emblème l'étoile des chevaliers de Malte et ils prêtent serment devant la croix de cet ordre. Sur une plaque à l'entrée du musée sont inscrits les noms de 103 sauveteurs qui ont trouvé la mort en mission.
Le projet pour faire revivre l'ancien site industriel de Dolní Vítkovice à Ostrava et de valoriser son passé est sans précédent en République tchèque, tant par son contenu que par son étendue. Une exposition inaugurée le 8 décembre au Musée technique de Prague présente le modèle du futur centre culturel, technique et scientifique de Dolní Vítkovice, qui, après avoir été inscrit sur la liste du patrimoine culturel européen, envisage de présenter sa candidature au patrimoine de l'UNESCO.
Voilà, c'est par cette visite de la ville d'Ostrava que s'achève le programme de Radio Prague en langue française. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková. Merci de votre attention.